Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Nous allons maintenant poursuivre notre étude de la dernière fois.
Nous devrions nous réjouir lorsque Dieu nous sauve de sa colère que nous mettrions amplement. Revenons à cette situation dans Marc chapitre 10. Ensuite, le Seigneur Jésus leur pose une question. Il leur demande « Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être baptisé du baptême que je reçus ?» Nous voyons Jésus parle d'un baptême qu'il doit subir. Nous nous interrogeons sur la nature de cet baptême que Jésus devait endurer. Nous apprenons que cet baptême est lié à l'acte de boire une coupe. Jésus parle d'une coupe qu'il doit boire. Cela nous éclaire davantage sur le baptême que Jésus a dû subir. En réalité, la coupe dont parle Jésus est la coupe de la colère de Dieu. L'image utilisée est que subir la colère de Dieu revient à boire une coupe. La coupe de Dieu, la colère. Un lien avec ce concept est établi lorsque Jésus a été sur la croix. Subissant la colère de Dieu, on lui donne du vinaigre à boire. Nous lisons ceci dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19. Jésus est sur la croix, subissant la colère de Dieu. Et nous lisons à partir du verset 28. Après cela, Jésus, sachant que tout est accompli, afin que l'écriture soit accomplie, dit « J'ai soif ». Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils rempliront une éponge de vinaigre, la fixera sur une branche d'hysope, à l'approcheront de sa bouche. Lorsque Jésus y reçut le vinaigre, il dit « Tout est accompli, puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. » Nous voyons que Jésus a dû boire du vinaigre. Ceci symbolise la colère amère de Dieu. Le vinaigre est très amer et Dieu a guidé les événements de la croix pour que Jésus boive du vinaigre afin que de monter la nature amère de sa colère. Et cela est lié au mot « coupe », car on boit généralement dans une coupe. Nous lisons à propos de la coupe de la colère de Dieu dans plusieurs versets. Un verset se trouve dans le psaume 11. C'est un verset assez négatif, mais c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Nous lisons dans les psaumes chapitre 11 à partir du verset 5. L'Éternel met à l'épreuve les justes, mais il hait les méchants et celui qui aime les violences. Sur les méchants, il fera pleuvoir des pièges du feu et du soufre, et une tempête terrible, telle sera leur partie de la coupe. Ce verset est négatif, car Dieu est un Dieu saint, et le péché est une grave offense envers un Dieu saint. Ici, Dieu parle de la coupe de sa colère. Nous lisons dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, à partir du verset 9, qu'il est question de la coupe de la colère de Dieu. Nous lisons. Et le troisième ange le suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, verser sa mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté par les fées et les soubres, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. » Ces versets parlent de la coupe de son indignation. Indignation est un autre mot pour colère. La coupe de sa colère. Nous examinerons un autre verset également trouvé dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 19. Et la grande ville était divisée en trois parties, et les villes des nations s'écroulant. Et la grande Babylone se fit présenter devant Dieu pour lui donner la coupe des vins de la faïence de sa colère. Ici, Dieu parle de la coupe divine de la férocité de sa colère. Ainsi, Dieu représente sa colère comme une coupe que l'homme doit boire à cause de ses péchés. Et Jésus a dû boire cette coupe lui aussi, car il devait expier les péchés des croyants. Il a dû boire la coupe de la colère de Dieu à leur place. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, Jésus a lié le fait de boire la coupe de la colère de Dieu au baptême dont il a reçu le baptême. Lisons à nouveau dans Marc, chapitre 10, verset 38. Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême que j'ai reçu ?» Il est question ici de la coupe de la colère de Dieu que Jésus a endurée à la place des croyants, afin qu'ils puissent entrer librement au ciel. Cette coupe est liée au baptême du Christ. Nous pouvons le comprendre en considérant les figures de l'eau du baptême qui nous purifie. Jésus était chargé des péchés de son peuple et il devait les faire effacer. Seul Jésus lui-même pouvait accomplir cela en portant la colère de Dieu pour expier ses péchés. En expiant ses péchés, il les a effacés, car Jésus ne pouvait plus les porter. Soyez coupables de ces péchés, car le paiement intégral a été effectué. Nous lisons une autre déclaration du Seigneur Jésus concernant sa venue et les baptêmes dans l'Évangile de Luc. Nous lisons dans Luc au chapitre 12 à partir du verset 49. Jésus dit « Je suis venu porter le feu sur la terre. » Et que ferai-je s'il est déjà allumé? Mais il me reste un baptême à recevoir. Et comment ferai-je tandis jusqu'à ce qu'il soit accompli? Le baptême est la souffrance de la colère de Dieu sur la croix qui va laver tous les péchés des croyants qui ont été imposés sur lui. Jésus fit ou soumis à ce baptême jusqu'à ce qu'il accomplisse quelques mois après avoir fait cette déclaration. Alors, revenons au baptême que Jean a administré au Seigneur Jésus. Nous lisons à nouveau cette déclaration dans Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. Mais Jean les lui entendit disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, laissez faire pour le moment, car il nous convient ainsi d'accomplir toute justice, et il les laissait faire. Jésus a dit à Jean de les baptiser afin qu'il accomplisse toute justice. Et c'était parce que ce baptême d'eau figurait le baptême de la colère de Dieu que Jésus en dirait pour laver les péchés de son peuple qui avait été mis sur lui. Lisons ce qui est passé après le baptême de Jésus. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et se pose sur lui. Et voici une voix venue du ciel qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve mon plaisir. Ceci est un passage très spécial. C'est un de ces passages qui nous aide à mieux comprendre Dieu. Et pourtant, en même temps, nous sommes de plus en plus perdus à son sujet. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous retrouvons cette vérité dans de nombreux versets. Par exemple, nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ici, Dieu souligne qu'il est un seul Dieu, un seul Seigneur. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, Dieu révèle davantage d'informations à son sujet. Plus précisément, elle affirme qu'il y a un seul Dieu et pourtant Dieu se révèle comme trois personnes. Trois personnes distinctées au sein de la Trinité et pourtant un seul Dieu, c'est un ministère divin que nous ne pouvons comprendre. Nous ne prétendons pas pouvoir comprendre un Dieu infini capable de parler et de créer l'univers. Le fait que Dieu se révèle comme trois personnes est démontré dans les versets que nous venons de lire. Matthieu chapitre 3. Le Seigneur Jésus sort de l'eau. Et la Bible révèle que le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Par exemple, nous lisons dans les premiers épîtres à Timothée au chapitre 3, verset 16, au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons 1 Timothée 3, 16. Et sans contexte, le ministère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le Seigneur Jésus est Dieu, qui est manifesté dans la chair, selon ces versets. De plus, Matthieu 3 parle de l'Esprit de Dieu devant sur le Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Comme la Bible le dit, Dieu est Esprit. Et alors une voix s'est fait sentir du ciel, qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est Dieu le Père du Seigneur Jésus, qui parle. Ainsi, dans ce verset du livre de Matthieu, Dieu révèle les trois personnes de la Trinité. Lisons cela à nouveau. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Et Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se pose sur lui. Et voici une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Nous voyons les trois personnes de la Trinité dans ces versets. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, sortant de l'eau. Le Saint-Esprit ou Esprit de Dieu descendant sur le Seigneur Jésus comme un colombe. Et Dieu le Père parlant du haut des cieux. Ceci est un ministère divin, mais nous l'acceptons comme vérité car c'est ce que la Bible enseigne. Poursuivons notre étude dans Marc chapitre 1. Nous avons terminé notre discussion sur le baptême du Seigneur Jésus. À ce stade, Jean-Baptiste a accompli la grande œuvre que Dieu lui avait confiée. En effet, nous allons voir peu après Jean est emprisonné. Plus tard, il sera mis à mort. Mais cela ne sera pas une perte pour Jean, car après sa mort, il rejoindra le ciel pour être avec Dieu. Après le baptême du Seigneur Jésus, nous lisons la suite des événements dans Marc chapitre 1, versets 12 et 13. Nous lisons. Aussitôt, l'Esprit le conduit au désert. Il y resta 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Nous lisons que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus au désert. C'est Dieu lui-même, par son Esprit, qui a conduit Jésus au désert. Nous lisons que Jésus a resté 40 jours au désert, tenté par le diable. J'aimerais prendre le temps d'examiner comment Jésus a été tenté et comment il a réagi. Cela nous aide à réagir adéquatement face à la tentation. Pour commencer, on peut se demander pourquoi Jésus a dû être mis en épreuve. Jésus est le Dieu parfait. Pourquoi a-t-il dû être mis en épreuve? Lorsque l'humanité fut créée, avec Adam et Ève comme premiers parents, Dieu les plaçant dans un monde merveilleux. À l'époque de la création, il n'existait aucune malédiction quelconque en connaît aujourd'hui. Source des maladies, des morts, des catastrophes naturelles, etc., etc. Pourtant, Dieu mit à l'épreuve Adam et Ève en leur interdisant de manger du fruit d'un certain arbre. Et en premier temps, au diable de s'introduire en eux sous la forme d'un serpent pour les éprouver. Nous avons appris cela dans une autre étude. Dieu permit à Adam et Ève d'être mis en l'épreuve. Et il est peut-être approprié que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il en sera de même le monde, pour rédiger un peuple pour lui-même, qu'il soit éprouvé aussi. En tout cas, c'était le plan de Dieu que le Seigneur Jésus soit éprouvé dès le début de son ministère. Pour en savoir plus sur cette épreuve, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Nous lisons. Alors Jésus était conduit par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Lorsque le tenteur s'approche de lui, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Encore une fois, nous lisons que Jésus fut conduit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, ou Dieu lui-même, conduisait Jésus à être tenté par les diables. Et c'est un point important. Il était du plan de Dieu que Jésus soit tenté pour voir s'il restera fidèle. Ensuite, nous voyons que Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits. Il n'est rien à manger pendant 40 jours et 40 nuits. Et comme le dit la Bible, il est faim. Cela contribua à intensifier l'épreuve. Dans ces récits, le tenteur est un autre nom pour les diables. Et le diable vient là où Jésus apparaît faible. C'est-à-dire, il est venu avec la tentation de la nourriture. Il dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Et étant Dieu, Jésus pouvait le faire. Cela aurait certainement été tentant pour quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis 40 jours. Continuons les récits. Nous lisons à partir du verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Examinons comment Jésus répond au diable. Tout d'abord, nous constatons que Jésus détourne la tentation du corps pour la porte sur les réalités éternelles, les paroles de Dieu. Au lieu de se focaliser sur notre estomac, Jésus met l'encens sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela nous rappelle comment il est facile de se focaliser excessivement sur notre ventre. Jésus recentre alors la tentation sur les pains de vie, les paroles de Dieu. De plus, une autre vérité essentielle se révèle. Nous verrons les récits des trois tentations du diable. Nous remarquons que Jésus répond par la parole de Dieu. Dieu, Jésus dit, il est écrit. Jésus répond à la tentation en citant la Bible. Son annonce se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 3. Le Deutéronome a été donné à l'époque de Moïse. L'important, c'est que le Seigneur Jésus nous montre comment répondre à la tentation en apprenant et en citant la Bible. Continuons la lecture de ces passages pour en savoir plus sur la tentation que le Seigneur Jésus a endurée. Lisons à partir du verset 5 de Matthieu chapitre 3. Alors le diable l'enleva dans la ville sainte et le plaça sur un pinceau, le temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordonnances à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains. Des choix, des sessions que ton pied ne tombera pas contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est la seconde tentation que le diable fit présenter au Seigneur Jésus. Le diable mena le Seigneur Jésus au sommet du temple et lui ordonna de se jeter dans le vide. Puis, le diable cita un verset de la Bible, car il est écrit, le diable cita les psaumes 91, versets 11 et 12. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce qui est intéressant, c'est que le diable cite la Bible. Jésus a cité la Bible lors de leur échange précédent. Alors, pour ne pas être en reste, le diable cite la Bible à son tour. Et c'est une information très utile pour nous. Parfois, on dit que si l'on cite la Bible, les diables et ses sbires prendront la fuite. Mais nous constatons que c'est faux. Jésus a cité la Bible et le diable n'a pas fui. Ou encore, on dit que les diables ou ses sbires ne citeront jamais la Bible. Il a conclu donc que si quelqu'un cite la Bible, il ne peut pas être sous l'emprise de Satan. Mais nous, si voyez que cette conclusion est erronée, par conséquent, soyons prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite la Bible qu'il dit la vérité. De plus, comme le voyons dans cette rencontre entre Jésus et le diable est capable de citer la Bible. Le diable a cité les psaumes 91, les psaumes qui dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et le diable utilise ces versets pour justifier que Jésus se jette du haut du temple. Mais Jésus corrige le diable en citant un autre verset qui nous ordonne de ne pas tenter ni mettre Dieu à l'épreuve. Et se jeter du temple reviendrait à mettre Dieu à l'épreuve pour voir s'il nous épargnerait un quelconque mal. Or, cela contredit le reste de la Bible. Nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve. Un point important ici est que le diable a mal compris, ou du moins mal appliqué la Bible. Le diable viendra avec la Bible, mais il l'utilisera mal. Le diable et ses disciples viendront avec des versets bibliques, mais ils les appliqueront mal. Et suivre leurs enseignements conduit au péché. De même si Jésus avait obéi au diable lorsqu'il a cité un verset et a essayé de l'entraîner sur la voie du péché. Et c'est un risque que nous devons respecter. Certains utilisent la Bible en l'interprétant des fausses fautes pour nous empêcher de nous fuir. Plus nous lisons et apprenons de la Bible, meilleur nous sommes protégés contre ce genre de tentations. Terminons les récits de cette tentation du Seigneur Jésus par le diable. Dieu recueillit trois tentations du diable. Les voici présentées pour nous enseigner d'importantes vérités de la Bible. Cependant, nous pouvons être certains que durant les 40 jours d'épreuve, le diable est venu et mettre éprise nous tenter. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Le diable les mena de nouveau sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adorais. » Alors, Jésus lui dit, « Retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les quitta, et voici que des anges veniront et les serviront. Dans cette troisième tentation, le diable tente le Seigneur Jésus avec tous les biens de ce monde. Le diable les offre au Seigneur Jésus, à la condition que le Seigneur Jésus l'adore. Remarquons encore une fois comment le Seigneur Jésus répond à cette tentation. Le Seigneur Jésus cite la Bible, car il est écrit, Jésus cite les livres de Deutéronome, chapitre 6, verset 13, dans l'Ancien Testament. Jésus nous montre pour la troisième fois comment réagit face à la tentation. Plus précisément, que nous devons connaître la Bible. Ainsi, lorsque des idées nous sont présentées, nous pouvons les examiner, y contrairement à ce que dit la Bible. Et soyez prêts à suivre les bons chemins. Les diables tentent le Seigneur Jésus avec tous les trésors de ce monde. Et c'est le genre de tentation dont souffrent beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Et il est facile pour nous d'oublier notre relation avec Dieu et de rechercher le plaisir de ce monde. Mais alors, nous n'aurons rien pour nos péchés lorsque nous serons devant affronter Dieu au jour du jugement. Jésus a donné la bonne réponse. Qui est de rechercher Dieu et non les trésors du monde? Il est tout le temps que nous avons aujourd'hui. La prochaine fois, nous poursuivrons notre cours de l'évangile de Marc et nous commencerons à examiner ce que le Seigneur Jésus a prêché au peuple. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.